I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin.
Campus. 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 Campus.
À partir de l'exposition Juste Humain, prêtée par Amnesty International Amiens, et quelques dessins du site Cartooning for Peace, les élèves de seconde du lycée Édouard Branly ont préparé une émission sur les valeurs de la République. Ils nous donnent à entendre leur podcast en partenariat avec Radio Campus Amiens et notamment Stéphanie Bescon et Hugo Souchu, encadrés par Madame Beaubois et De Chapy au CDI du lycée Édouard Branly. Bonne écoute sur le 87.7 FM.
Elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yanna au feu rouge.
Alors je suis Sonia Tozzolini et je suis professeure d'éco-gestion au LP Édouard Branly.
Alors, pour vous, que représente cette photo du Black Lives Matter?
On est sur des personnes qui sont plutôt révolutionnaires, qui manifestent.
Photo, pour vous, quel est le meilleur moyen de soutenir ces gens contre le racisme et...
Je pense que le meilleur moyen de lutter contre le racisme... C'est d'échanger et de partager des choses, de vivre des choses avec les gens.
Que représente pour vous le mot égalité ?
Égalité, prendre en considération les différences de chacun.
Et pour aider les autres pays face aux réfugiés de guerre ?
Je pense que déjà, ça doit être égalitaire et pas uniquement sur un pays, parce que je pense qu'il y a pas mal de pays qui ont été abandonnés. Et comment on peut les aider? En les accueillant, en les accompagnant.
Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots?
Alors, moi, c'est Victor Prévost, je suis en seconde D, j'ai 16 ans, je suis célibataire. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal.
Quoi t'es pensé de la photo?
Des gens qui... manifeste contre le racisme, non?
Ouais. Quelle est la meilleure solution contre le racisme?
Je sais pas moi, l'égalité. L'égalité.
Que représente pour vous le mot égalité?
Même droit, même devoir pour tout le monde.
Que doivent faire les pays face aux réfugiés de guerre?
Je pense les accueillir. Et puis les traiter comme des personnes qui habitent dans le même pays, quoi.
Peux-tu te présenter en quelques mots?
Bonjour, je m'appelle Timéo, je suis en seconde C.
Okay. Que représente ce dessin pour toi?
On voit quelqu'un avec un bol de soupe et dedans il y a le drapeau de l'Union Européenne avec un bateau.
Que représente pour vous le mot égalité?
Tout le monde est égaux de faire tout ce qu'il veut. Il ne doit pas y avoir des gens qui doivent faire moins que les autres, qui ont moins de droits que les autres.
Plus cruelle, Yanna a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de...
Je voudrais lui parler, lui dire qu'il avait tort. Nous ne sommes pas passés parce que Dieu l'a voulu, mais parce que nous avons gardé un œil l'un sur l'autre. Nous avons choisi cet extrait de Laurent Godet, Eldorado, parce qu'il évoque la fraternité, l'entraide, et c'est le thème que nous avons choisi. Il est également question de fraternité avec le dessin de presse de Coste et la photographie de Martin Parr. Sur le dessin de presse, on peut voir trois personnages. Une personne qui regarde vers la droite et deux personnages de dos, assises sur la poignée de la valise. Les deux personnages se font un câlin et l'autre tend ses bras comme s'il voulait avancer. Les couleurs sont plutôt froides et ça se passe sur un glacier. J'en comprends que cela parle de la fonte des glaces et du fait que celle-ci force la population locale à partir. Il faudrait donc pour cela qu'on s'entraide et qu'on diminue toute la population, toute la pollution, pour éviter ce genre de drame, d'où ce lien avec la fraternité. Concernant la photo de Martin Parr, on peut voir sur la photo l'adolescente suédoise Greta Thunberg, qui est représentée en peinture dans un glacier qui a fondu, entre l'eau et le ciel. À gauche, on dirait comme une sorte de feu qui brûle les glaciers. De l'autre, une tempête, et on peut voir aussi les oursons qui nagent dans l'eau. Ça représente le réchauffement climatique, les problèmes que ça cause. On a choisi ça en lien avec la fraternité pour rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, que genre, fallait s'aider entre nous. Du coup, pour diminuer la pollution ou pour ralentir le réchauffement climatique, pour pas avoir ce genre de cause. La fraternité peut être envers les animaux et la nature. Si on met toutes nos chances de notre côté, on peut ralentir le réchauffement climatique et éviter ce genre de drame. Je vous laisse avec Michael Jackson avec sa musique Earth Song.
Thank you. celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu.
Salut, c'est Bertie.
Salut, moi c'est Léna. Nous, on étudie au lycée Édouard Branly.
Nous avons choisi la photographie qui aborde le thème des disparitions forcées en Argentine. Dans cette photographie, la couleur dominante est le bleu. Nous pouvons apercevoir des éléments comme un cadenas, une porte rouillée, une affiche sur laquelle on peut lire Archives Générales 2002. D'emblée, l'élément qui attire le regard est la porte rouillée. L'artiste Alexandra Sanguettin cherche à exprimer un passé douloureux et à communiquer l'idée de la prison. J'ai choisi la liberté car on remarque à travers ces images qu'il y a une liberté comme la porte rouillée, qui est normalement représentée sous forme d'une image qui a beaucoup vécu. Sans doute qu'elle renferme des âmes, que c'est une porte d'entrée d'une pièce de torture, mais à la fois une porte peut être vue comme une ouverture au paradis, qui remarque le passage d'une nouvelle vie.
Donc on a pu comparer cette photographie à un dessin de presse. Le dessin fait comprendre que cet homme porte une valise en forme de cercueil. Il franchit une ligne qui peut être la frontière. Ses parents lui font un dernier signe pour lui dire au revoir. On voit que cet homme qui veut partir de chez lui pour un avenir meilleur. Le paysage est vide, les couleurs sont sombres. Nous comprenons que cet homme pense à avoir la liberté en traversant la ligne au sol. Il décide de partir de son pays pour avoir un avenir meilleur. Mais la valise qu'il porte représente un cercueil, donc cet homme ne va sans doute jamais revenir. La liberté est représentée sur le marquage au sol, car on distingue un départ imminent qui est comme une entrée vers une nouvelle Eldorado pour trouver une meilleure vie. Donc on va vous lire un extrait d'Eldorado qu'on a choisi, en lien avec la photographie et le dessin de presse. Donc, aucune frontière n'est facile à franchir, il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Nous avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté, mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays. Et qu'il n'y ait ni fil barbelé, ni poste frontière, n'y changera rien. J'ai laissé mon frère derrière moi, comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elle blesse tout.
Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. Si faux, vos discours sont si faux. Ouais, si faux, qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu leur voix? La voix de ces familles, plein de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Sentiment, rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui nous accompagne tous depuis 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au fil des siècles, plusieurs formes d'art ont dénoncé les restrictions des libertés qui sont de plus en plus présentes. Parmi celles-ci, la photographie de Paolo Pellegrin, qui est un photographe italien très reconnu pour son travail. La photo représente un soldat montrant comment les détenus devaient placer leurs mains pour être menottés. Donc cette œuvre est prise en hauteur, il y a des mains qui sont jointes au centre de la photo qui attirent notre attention avec les jeux de lumière. Les couleurs dominantes sont le blanc et le noir, et elle sert à exprimer la liberté, l'emprisonnement et la restriction. Sous une autre forme d'art, le dessin de Yumba, de son nom Benjamin Ilunga Yumba, donc c'est un jeune dessinateur de presse africain qui a remporté en 2008 le concours Regard du Monde sur l'Europe. Ce dessin représente un petit garçon noir derrière des barbelés. On remarque que ses mains saignent, il n'y a aucun paysage derrière lui et les couleurs sont vives. Il y a aussi le drapeau de l'Union européenne dans ses yeux. Le message qu'il nous transmet est la façon dont les étrangers voient l'Europe, c'est-à-dire derrière des barreaux, car celle-ci ferme les frontières. Ce dessin a pour but de dénoncer, de choquer et de faire réfléchir. L'écrivain français Laurent Godet fait écho aux œuvres précédentes avec son roman Eldorado, qui parle également du manque de liberté. « L'herbe sera grasse, dit-il, et les arbres chargés de fruits. De l'or coulera au fond des ruisseaux, et des carrières de diamants à ciel ouvert réverbéreront les rayons du soleil. » Les forêts frémiront de gibier et les lacs seront poissonneux. Tout sera doux là-bas, et la vie passera comme une caresse. L'Eldorado, commandant, ils l'avaient au fond des yeux. Ils l'ont voulu jusqu'à ce que leur embarcation se retourne. En cela, ils ont été plus riches que vous et moi. Nous avons le fond de l'œil sec, et nous autres, nos vies sont lentes. Le lien parmi ces trois œuvres différentes est la restriction de la liberté. Dans cet extrait, il est décrit un monde idéal, un Eldorado, un endroit où la vie serait plus simple et meilleure. Il l'avait au fond des yeux, cette phrase colle parfaitement avec le dessin de Yumba dans lequel le petit garçon a l'Europe dans les yeux, et donc son Eldorado. Ces trois œuvres se rejoignent sur le fait que chacun d'entre nous cherche son monde idéal, son Eldorado, mais que des épreuves et des injustices nous en empêchent.
Bonjour! Bienvenue sur ce podcast présenté par Margot et Emma. La liberté est un terme que nous utilisons souvent.
Alors, bonjour, présentez-vous.
Je m'appelle Océane Destro, j'ai 16 ans.
Comment interprétez-vous cette image ?
C'est une image un peu qu'il y a comme dans les trains. Pour les trains, dans les passages à niveau, il y a écrit « Attention, ce train peut en cacher un autre ». Mais là, c'est ce mur pour en cacher un autre.
Si vous pouvez donner un synonyme de liberté, lequel serait-il ?
Libération.
Pouvez-vous donner un symbole de la liberté ?
La colombe. Blanche.
Pourquoi ?
Parce que c'est la colombe blanche et c'est un oiseau et c'est un signe de liberté.
Donc, Sandra Pietrianu, je suis conseillère principale d'éducation au lycée Édouard Branly. Et j'ai 35 ans. Et je suis une menteuse. Allez, question suivante.
Pour commencer, comment interprétez-vous cette image ?
Alors, Alors, comment je l'interprète ? D'abord, je la comprends tout à fait. C'est tout à fait ça, effectivement. Plus ça va, plus on construit des murs. On s'enferme. On se replie sur soi. Et donc, moi, quand je vois une image comme ça, ce qui m'inspire, c'est un coup de pioche, un saut à la perche par-dessus le mur ou dynamiter le mur.
Ensuite, si vous pouviez donner un synonyme de liberté, lequel serait-il ?
Alors, un seul, c'est difficile, mais pour moi, la liberté, c'est le bonheur, c'est vivre pleinement les choses, c'est être heureux, c'est l'ouverture d'esprit. C'est ouvrir ses bras à son prochain, c'est l'éducation, l'instruction et la possibilité de dire ce qu'on pense sans se retrouver en prison.
D'accord. Pouvez-vous me donner un symbole de la liberté ?
Eh bien, un mur qu'on détruit, une frontière qu'on ouvre, une porte qu'on ouvre, des bras qui accueillent, un oiseau qui s'envole. Et la liberté de pouvoir, c'est pouvoir aller à l'école, c'est pouvoir, pouvoir voter, c'est toutes ces choses-là.
Bonjour, vous pouvez vous présenter ?
Alors je suis Madame Ledé, Dominique, gestionnaire du lycée. Première question, comment interprétez-vous cette image ?
Le mur de Berlin. Bah, l'arrêt de la liberté. Le mur de Berlin, ça vous parle ? Mm. Je vais apprendre ça comme ça.
Si vous pouvez donner un synonyme de liberté, lequel serait-il ?
Un synonyme de liberté ? Évasion.
Pouvez-vous donner un symbole de la liberté ?
Une colombe qui s'envole.
Pourquoi ?
Quand elle part, elle est libre d'aller où elle veut.
Présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis en seconde D, en général à Branly.
Première question, comment interprétez-vous cette image ?
C'est une caricature, c'est un petit homme devant un grand mur. Et du coup, il n'est pas libre, voilà.
D'accord. Ensuite, si vous pouviez donner un synonyme de liberté, lequel serait-il ?
La liberté, c'est le bonheur, c'est être libre.
Ensuite, pouvez-vous nous donner un symbole de la liberté ?
Un symbole de la liberté ? Bah, la France.
Pourquoi ?
Parce que la France est un pays libre.
Merci à tous ces témoignages différents. Maintenant, pour donner une définition de la liberté, nous vous apportons divers documents afin de répondre à cette question. Premièrement, une photographie de Le Caire qui s'appelle « Chute du mur de Berlin », représentant deux jeunes sur le mur qui s'embrassent. Sur la photo, on peut voir des symboles qui nous font penser à la paix, comme le « Peace and Love ». Que nous retrouvons sur le mur. Le mur représente la paix, la liberté, mais aussi les frontières qu'il faut traverser. Et les deux jeunes s'embrassent, se situant au milieu de la photographie. Donc nous pouvons dire que cette photographie exprime le fait que peu importe les frontières, nous restons unis.
Et pour finir, nous vous avons préparé un extrait du livre Eldorado de Laurent Godet. Qui dit, et je cite, « Le cauchemar a commencé lorsque nous nous sommes trouvés entre les deux grilles. La bande de terre était juste assez large pour que puisse circuler une voiture. Tous ceux qui parvenaient à franchir la première grille s'y retrouvaient. Nous fûmes bientôt entassés les uns sur les autres, les corps tombés du sommet des barbelés. » Ce texte nous montre que les frontières peuvent être exprimées par divers symboles, comme par exemple les grilles, comme dans cet extrait.
Bonjour, bienvenue sur ce podcast en compagnie de Lino et nous allons étudier une image et un dessin en lien avec la liberté. Tout d'abord, dis-nous Lino ce que tu vois sur cette photo.
Eh bien sur cette photo, je vois une femme de dos avec des ailes et le poing levé. Elle a aussi un sac.
Ok. Ensuite, à quoi te font penser ces ailes ?
Je pense que ces ailes représentent sa liberté et elles sont multicolores. Cela peut peut-être montrer l'union des femmes contre l'inégalité.
Ok, Lino, enfin, dis-nous ce que le bras levé peut signifier pour toi.
J'imagine qu'elle se bat pour protéger ses libertés et qu'elle est téméraire et ambitieuse. Et toi, Luca, qu'en penses-tu ?
Moi, je pense plus que le bras levé et les ailes montrent la fraternité de tout le peuple et non seulement des femmes. Nous retrouver juste après cette petite pause de musique avec un micro-trottoir pour étudier le fameux dessin sur la liberté.
Le voir maner entier sans pouvoir rien y faire. Et au fil des années, j'ai essayé de le changer. Il n'a cessé de me décevoir. J'ai endossé le prix à payer. Moi j'ai voulu effacer ses empreintes. Et je viens d'apprendre que je suis enceinte. Mon Dieu, pardonnez-moi d'avoir fait ça. J'aurais voulu être la meilleure mère, toujours te rendre fière. J'en pleure des larmes amères. J'aurais voulu te garder dans mes bras, te serrer fort contre moi. J'en pleure des larmes amères. Et depuis je prie chaque jour pour que le temps me retourne un peu d'espoir.
Vous appelez-vous ?
Je m'appelle Monsieur Cailly Clément et je suis professeur de PS au lycée Branly-Étulier.
D'accord.
Donc j'aurais quelques questions à vous poser au sujet de la liberté. Donc d'abord, que voyez-vous sur ce dessin ?
Alors sur ce dessin, on voit une personne derrière un grillage et accrochée au grillage avec le visage un petit peu étonné de peut-être, je sais pas après si on peut interpréter, mais je sais pas trop quelle est l'émotion sur son visage, mais il a les yeux écarquillés et il est en tout cas bloqué derrière ce grillage avec une petite chemise ouverte. On a l'impression que c'est des vêtements qui sont assez vieux, etc. Et donc on a l'impression que ça retransmet un peu de pauvreté aussi derrière. D'accord. Derrière ça.
Et donc ensuite, qu'est-ce qui vous inspire ce dessin ?
Et je l'ai un peu dit, mais ça inspire, comme tout à l'heure, par exemple, je disais un peu de la tristesse, de voir une personne là bloquée derrière un grillage comme ça. Après, si on peut parler de la couleur de peau qui a été choisie sur ce dessin, c'est une personne de couleur noire. Du coup, peut-être que ça évoque aussi ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration et les personnes qui sont bloquées dans leur pays avec des conditions indignes pour l'être humain.
Ouais. Et donc, quel lien faites-vous entre la liberté et ce dessin ?
Le lien, il est clair, c'est que tout à l'heure, là, la personne, elle est emprisonnée un peu derrière ce grillage, elle ne peut pas accéder au-delà de ce grillage, et donc c'est une atteinte à la liberté, puisqu'on est bloqué derrière ce grillage, quoi. Donc voilà.
Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui nous accompagne tous depuis 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au fil des siècles, plusieurs formes d'art ont dénoncé les restrictions des libertés qui sont de plus en plus présentes. Parmi celles-ci, la photographie de Paolo Pellegrin, qui est un photographe italien très reconnu pour son travail, notamment avec la photo « Un soldat montrant comment les détenus devaient placer leurs mains pour être menottés ». Cette œuvre est prise en hauteur, il y a des mains qui sont jointes au centre et qui attirent notre regard avec les jeux de lumière. Les couleurs dominantes sont le blanc et le noir. Cette photo sert à exprimer la liberté, l'emprisonnement et la restriction.
Sous une autre forme d'art, le dessin de Yumba, de son nom Benjamin Ilunga Yumba, un jeune dessinateur de presse africain qui a remporté en 2008 le concours « Regard du monde sur l'Europe ». Ce dessin représente un petit garçon noir derrière des barbelés. On remarque que ses mains saignent, il n'y a aucun paysage derrière lui et les couleurs sont vives. Il y a aussi le drapeau de l'Union européenne dans ses yeux. Le message qu'il nous transmet est la façon dont les étrangers voient l'Europe, c'est-à-dire derrière les barreaux, car celle-ci ferme les frontières. Ce dessin a pour but de dénoncer, de choquer et de faire réfléchir. L'écrivain français Laurent Godet fait écho aux œuvres précédentes avec son roman Eldorado, qui parle également du manque de liberté. L'herbe sera grasse, dit-il, et les arbres chargés de fruits. De l'or coulera au fond des ruisseaux et des carrières de diamants à ciel ouvert réverbéreront les rayons du soleil. Les forêts frémiront de gibier et les lacs seront poissonneux. Tout sera doux là-bas et la vie passera comme une caresse. L'Eldorado, commandant, il l'avait au fond des yeux. Il l'avait voulu jusqu'à ce que leur embarcation se retourne. En cela, ils ont été plus riches que vous et moi. Nous avons le fond de l'œil sec, nous autres, et nos vies sont lentes.
C'est pas bon, on comprend. Le lien parmi ces trois œuvres différentes est la restriction de la liberté. Dans cet extrait, il est décrit un monde idéal, un Eldorado. Un endroit où la vie serait plus simple et meilleure. Il l'avait au fond des yeux. Cette phrase colle parfaitement avec le dessin de Yumba, dans lequel le petit garçon a l'Europe dans les yeux et donc son Eldorado.
Ces trois œuvres se rejoignent sur le fait que chacun d'entre nous cherche son monde idéal, son Eldorado, mais que des épreuves et des injustices nous en empêchent.
Grenier, je suis en classe de seconde C et aujourd'hui je vais vous parler de la liberté à travers un dessin de presse de Yumba et une photographie d'Alessandra Sanguinetti ainsi que le livre Eldorado de Laurent Godet.
Sur le dessin de presse, on fait un lien entre le petit garçon et Soleiman, qui est le personnage principal d'Eldorado, car on voit que dans les yeux du petit garçon, qu'il rêve d'émigrer vers son Eldorado, comme Soleiman, qui part en espérant une vie meilleure et un bon avenir. Ensuite, on voit aussi que le petit garçon est enfermé à cause des barbelés. Dans le roman, Soleiman, lors de traverser la frontière, se retrouve également coincé par des barbelés très imposants. Je vais ensuite vous parler du dessin de presse. Le dessin de presse se nomme « Migration et frontières ». Il représente un petit garçon rêvant de migrer vers son Eldorado, qui est l'Union européenne. Le drapeau est représenté dans ses yeux. Il saigne au niveau des mains, car même si son parcours est difficile, on voit qu'il est prêt à souffrir pour rejoindre le continent européen. Ensuite, pour l'image, on sait que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'article 3, celui-ci nous indique que tout individu a droit à la vie, la liberté et à la sûreté de sa personne. Or, ce n'est pas toujours le cas. On peut le constater par la photographie. Son œuvre, Entrée d'un sous-sol, représente une vieille porte en ferraille bleue. Celle-ci est griffée et brûlée, ce qui est un signe de torture et de massacre. On aperçoit aussi un cadenas qui ferme la porte. Il représente l'emprisonnement. Une affiche datant de 2002 y est également accrochée. Maintenant, je vais vous quitter en vous laissant sur une musique qui fait écho à une des trois valeurs de la République, Georges Moustaki, Mali.
Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher.
Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 15 ans et je suis au lycée Branly.
D'accord, donc première question, à quel événement cette photographie vous fait-elle penser ?
Je sais pas.
Essayez de développer.
Je sais pas, c'est une porte avec un cadenas. Ça, c'est le manque de liberté.
D'accord, et à quoi vous fait penser le manque de liberté ?
Je ne sais pas.
D'accord. Quel sentiment vous procure ce dessin ?
De la tristesse.
Pourquoi ?
Parce qu'on voit que le petit garçon est emprisonné.
D'accord. Quelles valeurs de la République vous font penser ces œuvres ?
La liberté.
Pourquoi ?
Parce que sur les photos, on voit qu'il n'y a pas de liberté.
D'accord, merci beaucoup, au revoir.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Madame Leca, je suis infirmière au lycée.
Nous allons vous poser quelques questions. À quel événement cette photographie vous fait penser ?
Alors, elle me fait penser à... les archives générales avec une porte fermée. En fait, je ne sais pas trop, hein. Franchement, j'ai pas d'idée, quoi. Je suis désolée. C'est pas grave.
Quel sentiment vous procure ce dessin de presse ?
Le sentiment.
Oui.
Le sentiment d'enfermement. Et puis, le sentiment d'enfermement, surtout, hein, l'absence de liberté, ouais.
Pourquoi ?
On voit un jeune derrière un barbelé. Donc, on peut se douter qu'il est enfermé soit dans une prison ou dans un camp.
À quelle valeur de la République vous font penser ces œuvres ?
L'absence de liberté, donc la liberté du coup.
Pourquoi ?
Parce que là, on a l'impression que il y a... c'est un camp, en fait. Moi, je dirais que c'est plutôt un camp. Et c'est des gens qui ont été enfermés suite à, je sais pas... soit des sans-papiers, soit des migrants ou des gens qui ont été enfermés ou parqués dans un camp et du coup, soit ils vont être envoyés chez eux. Ouais, moi je dirais ça, ouais.
Très bien, merci.
Ma liberté, pourtant je t'ai quitté,
une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble.
Bonjour,
je m'appelle Pauline.
Et moi Sophie, et on est en seconde au lycée Édouard Branly à Amiens.
Aujourd'hui, on va vous parler d'une grande valeur de la République qui est la fraternité.
Nous allons vous lire un extrait d'Eldorado qui, à nos yeux, représente complètement la fraternité. C'est alors que je vois Boubacar sur une échelle à quelques mètres de moi, à mi-chemin entre la terre et le sommet. Il ne bouge plus, il est accroché au barbelé et ne parvient pas à s'en défaire. Des assaillants, sous lui, commencent à hurler. Ils veulent l'agripper pour le faire tomber et qu'il cède sa place. Je ne réfléchis pas, je descends dans ses directions. En quelques secondes, je suis sur lui et arrache la manche de son pull.
Mais la fraternité n'est pas que des textes, c'est aussi des actions. Nous avons la chance d'avoir avec nous Emmanuel. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous ?
Très bien.
Alors aujourd'hui, nous allons vous interviewer au sujet de la fraternité. Pouvez-vous vous présenter ?
Bien sûr. Donc Emmanuel, 52 ans, originaire d'Amiens. Je pense que je suis engagée comme ça. Ça vient de mes parents qui ont créé une association, Picardie Togo. Donc, ils étaient investis dans l'Afrique, matériel médical et scolaire au Togo. Donc, je pense que c'est quelque chose, voilà, qui est inculqué. Donc, automatiquement, on ne se pose pas de questions, on y va.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi vous fait penser le mot fraternité ?
Alors, ma définition, c'est un lien qui unit tous les peuples comme une famille. Et ce lien permet la paix et la solidarité. C'est un socle qui unit tous les humains.
Nous avons appris votre séjour à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Quel a été votre rôle là-bas ?
Alors, je vais commencer par l'histoire. C'est que j'ai chargé un camion d'une tonne d'œufs et on cherchait un co-conducteur. Donc, j'étais avec Thierry. Et donc, nous sommes partis avec Assistance aux réfugiés d'Ukraine. C'est une association. Et nous avons été déchargés à la frontière. Tout ce matériel, c'était de première nécessité. Et ensuite, j'ai eu la possibilité par la Croix-Rouge de passer la frontière et de voir comment étaient accueillis les réfugiés. Mais je n'étais que spectatrice à ce niveau-là.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ça ?
Alors, devant les images de l'actualité, de voir les réfugiés, de voir les bombardements, je me suis dit je ne peux pas rester assise sur mon canapé à regarder un génocide.
Et avez-vous des projets futurs liés à cette valeur qui est donc la fraternité ?
Oui, toujours. Donc j'envisage d'aller en Moldavie, donc pour être plus proche d'Odessa, là où ils ont le plus besoin, dans le sud-est, où c'est bombardé, afin d'acheminer des médicaments pour les populations qui ne peuvent pas sortir.
Et que retenez-vous de votre premier voyage ?
Riche en émotions. J'ai pensé un petit peu à ce que mes grands-parents avaient vécu avec l'Exode. Parce que vous voyez des chaînes humaines, des vieillards, des femmes, des enfants. Il n'y avait pas d'hommes puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir. Et un sac plastique, c'est tout ce qui reste de leur vie. C'est tout. Et c'est prenant. Ça touche aux tripes.
Ouais, effectivement, ça a dû être assez dur pour vous. Avez-vous déjà participé à d'autres actions humanitaires ?
Oui, au Togo, avec mes parents.
Vous aviez quel âge lors de cette action ?
C'était il y a 5 ans. Et on a distribué donc, du matériel scolaire pour les enfants. C'était la rentrée scolaire. Ils la font mi-octobre, la rentrée scolaire. Et aussi de la nourriture pour des orphelins.
Vous avez fait des rencontres là-bas ?
Oh, énormément. Alors, avec les Polonais, qui qui ont un sens de l'accueil formidable, ils n'hésitent pas à laisser leurs appartements à des familles ukrainiennes qui ne connaissent pas. Pour les réfugiés côté ukrainien, ce sont les villageois des alentours qui font à manger et qui rapportent dans les marmites. Ils n'ont pas d'aide de l'État ni quoi que ce soit. Ils le font spontanément, gratuitement. Et à la demande du gouvernement, les Polonais se rendent disponibles pour transporter les Ukrainiens dans toute la Pologne, à leurs frais, sans aucune aide.
Pensez-vous que la France est assez solidaire à l'image des Polonais ?
On en est très loin, très loin. Là, c'est spontané, c'est gratuit. Et je ne pense pas que les Français seraient capables d'accueillir à bras ouverts des gens qu'ils ne connaissent pas.
Comment voyez-vous l'issue du conflit ?
Je pense qu'il ne s'arrêtera pas. Et la Moldavie a déjà perdu 2 départements. Donc les Moldaves ne font pas partie de l'OTAN ni de l'Union européenne. C'est le pays le plus pauvre de l'Europe. Donc aucun moyen de défense. Là, d'avoir des réfugiés, ils n'ont pas la capacité financière, alimentaire, de les accueillir. Donc après, ils sont envoyés en Roumanie, qui là fait partie de l'Union européenne. Donc ils ne font que passer de la Moldavie. Donc ça va être dur, c'est des pays qui, déjà même la Pologne, ne sont pas des pays très riches. Mais malgré ça, ils donnent sans savoir qu'il n'y aura jamais aucun retour. C'est spontané, c'est gratuit.
Alors maintenant, on va vous montrer une photo prise par Alex Majoli. Pouvez-vous nous la décrire ?
Je vois donc des mains levées avec une chaussure. Je vois aussi un drapeau devant donc un bâtiment. C'est pour moi un signe de protestation.
Donc ça se passe en Égypte. En février donc 2011, devant le siège de la télévision d'État. Voilà, maintenant on va vous montrer un dessin de presse. Pouvez-vous la décrire aussi ?
Alors je vois un homme qui a une larme, donc il pleure avec un baluchon. Et le baluchon, c'est la Terre, notre planète. Pour moi, ça veut dire adieu la planète. Si vous voulez, je vais vous montrer quelques petites photos que j'ai faites à la France. Bon, elles ne sont pas toujours terribles parce qu'il fallait se dépêcher parce que bon, on ne peut pas les prendre comme ça devant les militaires ukrainiens qui étaient un petit peu sur le qui-vive. Ce qu'ils comprennent, ils ne veulent pas être pris en photo. Ils ne savent pas comment ça se passera. Sans ça, si la Russie gagne, les premiers à être fusillés, ce sera les militaires. Donc il ne faut pas qu'on reconnaisse leur visage. Elle n'est pas bien prise, c'est à Budomirs. C'est aussi un camp de transition où ils passent une ou deux nuits avant d'être évacués en Pologne. Donc ça, c'est une petite Ukrainienne qui a été enlevée de l'hôpital, elle a une leucémie, donc elle se retrouve sans traitement.
Elle va être prise en charge ?
Oui, mais après savoir où, parce que les gens qui arrivent, le problème, c'est qu'ils sont perdus. Vous quittez votre pays, mais allez où ? Vous ne connaissez personne. Vous fuyez en Pologne, si vous ne connaissez personne, vous ne connaissez personne. En Allemagne, en Belgique. C'est ça qui est dur, c'est qu'ils ne voient pas ce qu'ils vont faire. Ça, c'est la queue pour entrer à la frontière polonaise. Mais ça, c'est sur des kilomètres dans le froid. Donc souvent, ils arrivent avec des couvertures sur le dos. Et ils patientent les bébés dans les poussettes, les vieillards avec les chaises roulantes. Et c'est comme ça, quelquefois, 10, 12 heures, et au début, c'était 18 heures. On les voit, donc les Polonais ont mis des poussettes à disposition, parce que des fois, ils les ont dans les bras, parce qu'ils n'ont même pas pu sauver de poussettes. Vous voyez, maintenant, ils se sont améliorés, ils ont mis des tentes, et puis de quoi les réchauffer. Parce qu'ils arrivent dans des conditions, ils ont marché. J'ai transporté une fille qui avait une vingtaine d'années, avec son chat Mars et sa maman. Ils ont passé 15 jours dans un abri et ils ont marché 15 jours parce qu'ils venaient du nord. Donc ils n'arrivent pas forcément en forme. Voilà. Ça, c'est un petit qu'on met à côté. Il venait d'arriver parce que les bébés arrivent avec des pneumonies. Il fait moins 10, moins 15 et ils marchent. n'y a pas de voiture, il n'y a plus d'essence. Et ils marchent parmi les ruines, ils se cachent, des fois ils passent la nuit dans un champ.
Je trouve qu'on ne s'en rend pas vraiment compte de la difficulté de ces personnes jusqu'à voir justement des photos.
Donc, on ne peut pas, parce que je pense qu'on pense que c'est loin.
Oui.
Et non, c'est à 1700 kilomètres. La guerre est à 1700 kilomètres de chez nous. C'est à côté. Et il y a un génocide à nos portes. Alors, ils pensent aussi aux animaux, parce qu'ils sauvent leurs animaux. Ils arrivent avec leurs chiens, leurs chats, leurs lapins. Ils arrivent avec tout. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez tout ce qui... Voilà, tout ce que les gens ont pu donner dans toute l'Europe, voilà, ça arrive parce que ils arrivent, ils n'ont plus d'habits.
Oui.
De toute façon, ils n'ont plus rien. Voilà. Donc ça, c'est pour les réfugiés, vous voyez. Donc moi, ma prochaine mission, c'est d'amener les médicaments, vous voyez. Donc là, c'était vide, mais le soir, il n'y avait plus assez de place. Donc là, on est côté polonais. Donc, voilà, ça c'est tout le matériel qu'on a chargé, enfin qu'on a ramené donc, en Pologne. Mais ça partait en Ukraine. Pour que les gens, parce qu'ils dorment dans les abris de fortune, donc il faut des tentes pour protéger du froid, des tapis de gym ou de yoga pour isoler un peu du froid, sacs de couchage, des bougies parce qu'il n'y a plus d'électricité, des piles pour au moins alimenter une lampe torche, voilà. Qu'est-ce qu'on a ramené des bougies, des choses qu'on ne penserait même pas, que j'aurais pas pensé si on nous avait pas donné une liste. Parce que j'ai dit, des bougies, nous c'est pour faire beau, dans la salle de bain, ambiance, mais là non. Voilà, des petits pots pour bébé. De l'eau, beaucoup de packs d'eau, puisqu'ils n'ont plus accès à l'eau potable. Et franchement, c'est dur à voir.
Est-ce que tu peux lui demander comment justement elle ressort émotionnellement de cette expérience ?
Et comment vous ressortez de cette expérience émotionnellement ?
Il a fallu quelques jours quand même pour... arriver à digérer, à accepter, parce que au début on fait que pleurer et on pense que ce qu'on fait c'est rien, que les gouvernements ils ne comprennent rien, enfin on en veut, on a aussi une colère, de la tristesse, des pleurs, enfin tout est mélangé à vrai dire. Mais tout le monde peut agir à son niveau.
Comment on peut aider justement ?
Comment peut-on aider justement à notre niveau ? Donc, en restant en France, par exemple ?
Alors, il y a des points de collecte. Donc ça, vous pouvez le trouver donc dans votre région, dans votre ville. Après, il y a des Ukrainiens qui vont arriver en France, donc on peut les aider à apprendre la langue, à se diriger dans la ville. S'ils ont des enfants, des ados comme vous, ça leur fait des amis et ça va aussi leur changer les idées. Ça fait un mois qu'ils vivent sous les bombes. D'avoir une vie normale, c'est pas mal. C'est des petites choses, mais pour eux, c'est beaucoup. Mais tout le monde peut faire une petite goutte d'eau. Tout le monde peut le faire à son niveau.
Justement, moi, j'habite donc pas loin d'ici, à 30 minutes. Et donc dans ma ville, il y a un collège. Et ils ont quelques Ukrainiens qui y sont. Voilà.
Oh ben ça c'est bien. Mm-hmm. Mais après, vous pouvez chercher sur Internet, voilà, des listes, des collectes, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et je vous dis après, tout simplement, se lier d'amitié, correspondre avec des Ukrainiens, leur dire qu'on ne les oublie pas, qu'on pense à eux. Leur remonter le moral, ça aussi, ça fait partie. C'est bon aussi de sentir qu'on pense à eux.
Merci d'avoir participé à cette interview et on vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci.
Merci d'avoir écouté notre podcast.
Nous espérons qu'après ça, vous allez réagir.
Et dès votre prochain.
Nous sommes allongés dans les hautes herbes depuis plus de 2 heures. Immobiles, scrutant la frontière à nos pieds. La colline est pleine d'hommes qui épient la nuit avec inquiétude. 500 corps qui essayent de ne pas tousser, de ne pas parler. 500 hommes qui voudraient être plats comme des serpents. Nous attendons. C'est Abdou qui doit donner le signal. Il est à peu près 2 heures du matin, peut-être plus. À nos pieds, nous distinguons les hauts barbelés. Il y a 2 enceintes. Entre les deux, un chemin de terre où patrouillent les policiers espagnols. Il va falloir escalader 2 fois. Chacun scrute ses fils entortillés en essayant de repérer un endroit plus propice à l'assaut. C'est si frais. Nous sommes à quelques mètres de notre vie rêvée. L'oiseau ne mettrait pas une minute à franchir la frontière. C'est là, à portée de main.
Les policiers espagnols ne sont pas très nombreux, 20 à peine. Mais le long de la première barrière, il y a aussi des postes marocains. Combien d'entre nous vont passer? Qui réussira et qui échouera? Nous n'osons pas nous regarder les uns les autres. Mais nous savons bien que tout se joue maintenant, et que tout le monde ne passera pas. Cela fait partie du plan. Il faut que certains échouent pour que les autres passent. Il faut que les policiers soient occupés à maîtriser des corps pour que le reste de notre bande soit libre de courir. Je me demande ce que je vais devenir. Dans quelques heures, peut-être, je serai en Espagne. Le voyage prendra fin. J'aurai réussi. Je suis à quelques heures, à quelques mètres du bonheur, tendu dans l'attente comme un chien aux aguets.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know. Your first name is free, last name is dumb. But you still believe.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Timothée ici présent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la liberté, mais plus précisément de l'immigration qui n'est pas forcément acceptée dans tous les pays, comme les États-Unis.
Exemple que nous allons voir juste après à l'aide d'un dessin de presse, donc, fait par le Mexicain Boligan. Dessin représentant la frontière entre le Mexique et les États-Unis.
Nous avons posé des questions à 2 personnes pour voir ce qu'elles pensent de la liberté, de l'immigration et du cas des États-Unis et du Mexique.
Présentez-vous.
Frédéric Pluvinage, professeur d'économie au lycée Édouard Branly.
Que pensez-vous de la frontière construite par Donald Trump?
Une hérésie. Comment un pays peut empêcher des gens de venir alors que c'est la misère chez eux?
Pensez-vous que les immigrés devaient être enfermés et renvoyés chez eux comme le font les États-Unis?
Non, et c'est assez paradoxal que les États-Unis fassent ça alors que c'est un pays d'accueil au départ.
Et la dernière question, que signifie la liberté pour vous?
Ah, la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut sans nuire aux autres. Donc la liberté impose forcément des contraintes.
D'accord.
Ce qui est assez paradoxal.
Bonjour, je m'appelle Paul, je suis en seconde C.
Donc que signifie la liberté pour toi?
La liberté pour moi, c'est être libre de ce qu'on fait, comment on s'habille et de ce qu'on dit.
Que penses-tu de la frontière construite par Donald Trump?
Je pense qu'il a totalement raison, Donald Trump, il protège son pays. Après voilà, des fois il y a d'autres manières de le faire, mais je pense que le mur, c'est une bonne idée.
Donc, penses-tu que les immigrés devaient être enfermés et renvoyés comme le font les États-Unis?
À la place des États-Unis, moi personnellement j'aurais fait pareil. Après dans l'Union Européenne, je pense qu'on peut les accueillir totalement.
Pour leur poser, nous leur avons aussi montré un dessin de presse réalisé par Boligan, intitulé « Migration et frontières ». Voici leur réaction maintenant.
Que penses-tu de cette image?
Cette image, ça représente la frontière entre les États-Unis et le Mexique et personnellement, j'approuve.
Merci beaucoup, Paul, pour cette intervention.
Merci, Paul.
Et que pensez-vous de ce dessin de presse?
Alors, il est assez parlant du fait qu'un pays se referme sur lui et empêche et construit un mur alors que normalement, on devrait pouvoir circuler librement. Sans empiéter sur les autres, bien sûr. Et là, la fermeture est claire, hop, je me referme. C'est assez parlant.
Sur cette image, nous voyons donc un Américain ayant l'air riche qui tire une fermeture éclair représentant un mur de briques séparant les États-Unis et le Mexique. On peut voir aussi les drapeaux des deux pays en train d'être recouverts par le mur. On peut voir aussi les drapeaux des deux pays en train d'être recouverts par ce mur de briques.
Voilà, notre interview est terminée. Pour vous quitter, nous allons vous laisser sur un extrait de la musique Freedom de John Baptiste.
Nous sommes deux élèves du lycée Édouard Branly et nous allons vous expliquer la fraternité à travers deux images, représentant la chute du mur de Berlin et une image du dessinateur Arès, dans laquelle il montre un homme avec sa valise, incapable de quitter ses frontières à cause de la politique mise en place dans son pays.
Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi cette photo ?
Ça représente une personne du côté nord et du côté sud qui s'aiment et qui ne peuvent pas se voir parce qu'il y a, un mur qui les sépare. Et je trouve ça triste, en fait.
Après, qu'est-ce que ça représente pour toi, la fraternité ?
Ça représente beaucoup parce qu'on a besoin que les gens ils nous aiment, qu'on se batte avec eux. Et je trouve ça complètement stupide d'avoir fait un mur, en fait.
Donc, du coup, comment tu réagirais si c'était le cas qu'il y avait un mur qui séparait ton pays en deux ?
Je serais en colère, je ferais tout pour le briser. Parce que je trouve pas ça normal de séparer de le même pays, en fait. C'est même si son côté nord, sud, est, ouest, on est tous pareils.
Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis en seconde D, en général à Branly.
Ok, alors pour toi, ça représente quoi cette photo ?
Cette image, ça représente deux personnes sur un mur. Et elles sont à peu près libres parce qu'elles sont passées ce mur.
Et donc pour toi, ça représente quoi, la fraternité ?
Pour moi, la fraternité, c'est être ensemble, c'est être frère, une équipe.
Et donc tu réagirais comment si ton pays était coupé en deux, comme ça a été le cas en Allemagne ?
Très mal, je pense. Pas bien.
Est-ce que tu ferais des trucs, tu serais de la résistance, tu t'essayerais de casser le mur, de le franchir ou...
Ouais.
Bonjour, je m'appelle Clément Joseph.
Alors ça représente quoi pour toi, cette photo-là ?
Ça représente un couple sur le mur de Berlin en train de s'embrasser.
Pour toi, ça représente quoi, la fraternité ?
Pour moi, la fraternité, ça représente la solidarité entre humains.
Et tu réagirais comment si ton pays était coupé en deux, comme ça a été le cas en Allemagne ?
Je suis pas content, laisse-moi ma France.
L'image montrée dans les micro-trottoirs est une photo de Guy Le Kerec, pris en contre-plongée montrant le mur de Berlin le 31 décembre 1989. On peut voir deux personnages s'embrasser sur le mur. L'image est coupée en deux, montrant le mur et le ciel ouvert. Avec le couple au centre, la photo a des couleurs sombres. Ce mur a été construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, séparant l'Allemagne et l'Europe en deux. Cet événement est une cassure dans la fraternité mondiale qui prend fin en 89. Les pays récupèrent peu à peu leur indépendance et leur fraternité les uns envers les autres.
Voici un extrait du roman d'aventure Eldorado, écrit par Laurent Godet, sur la fraternité entre le personnage principal et son frère. L'extrait choisi est « Nous ne pouvons que vieillir ensemble désormais. Mon frère, je deviens fou si je te perds. »
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the world.
There's a choice we're making.
us lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving.
Bonjour, je m'appelle Lucas Petit, je suis en seconde C.
Pour vous, qu'est-ce que la liberté ?
La liberté, c'est être libre de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut, quand on veut, et la liberté d'expression, quoi, de dire ce qu'on veut.
Que vous inspire cette image ?
Ça m'inspire quelqu'un qui n'est pas libre.
Quel lien faites-vous entre cette photo et la liberté ?
Bah, c'est tout le contraire, là on voit une personne enchaînée, emprisonnée, et la liberté, c'est pas du tout ça.
Je m'appelle Thomas Liemens et je suis un seconde.
Alors, je vais vous poser quelques questions. Pour vous, qu'est-ce que la liberté ?
Ben, c'est pouvoir faire ce que l'on veut, mais en respectant les autres.
Qu'est-ce que vous inspire cette image ?
On dirait que c'est quelqu'un qui est prisonnier et il demande de l'argent.
Quel lien faites-vous entre cette photo et la liberté ?
Ben, lui, il peut pas faire ce qu'il veut. Ben, il est emprisonné, okay. Donc il n'est pas libre.
Ok, merci.
Alors bonjour, moi c'est Nathan, j'ai 15 ans, sportif.
Ok. Alors pour vous, qu'est-ce que la liberté ?
Pour moi, la liberté, c'est un choix. C'est de choisir ce qu'on peut ou ce qu'on veut faire. Et puis, voilà quoi.
Ok. Que vous inspire cette image ?
Cette image, elle m'inspire... soit l'emprisonnement, donc le contraire à la liberté. Et c'est tout.
Et donc, quel lien faites-vous entre cette photo et la liberté ?
C'est ce que j'ai dit juste avant, c'est un peu son contraire, quoi.
Ok. Bah, merci.
Alors, moi c'est Victor Prévost, je suis en seconde D à Branly.
Ok.
Voilà.
Alors, pour toi, c'est quoi la liberté ?
La liberté ? C'est avoir tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, pouvoir s'exprimer, se balader, circuler, faire n'importe quoi.
Ok. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, cette photo ?
Cette photo ? Plus la prison, voir l'enfermement d'une personne sous un dictateur. Mais après, je sais pas trop.
Ok. Quel lien fais-tu entre cette photo et la liberté ?
C'est complètement l'opposé.
Ok.
Parce que là, t'es pas trop libre quand t'es enfermé dans ce genre de cage.
Ok. Merci.
Bonjour, moi c'est Maloboué, je suis en 2C.
Ok. Alors pour toi, c'est quoi la liberté ?
La liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut.
Ok. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette image ?
Une personne en prison parce qu'elle a fait des choses pas très bien pour la vie.
Quel lien fais-tu entre cette photo et la liberté ?
Déjà, on voit que la personne est un peu enfermée par un grillage et qu'elle a pour sa liberté un trou dans le grillage.
Salut tout le monde, moi c'est Gaëtan.
Et moi Radia.
Le sujet du jour est la lutte contre les discriminations raciales aux États-Unis.
Donc nous allons parler de George Floyd, qui a été victime de cette violence le 25 mai 2020 à Minneapolis. La violence qu'il a reçue venait d'un policier blanc.
Cette vidéo a fait le tour du monde, ce qui a choqué de nombreuses personnes dans le monde entier. Ce qui a le plus choqué, ce sont les derniers mots de George Floyd qui sont « I can't breathe », qui signifie « je n'arrive pas à respirer ». Ces derniers mots ont été filmés et publiés afin de mettre le monde au courant de cette violence gratuite.
Sur cette vidéo, George Floyd, qui est sur le sol, aplati sur le ventre avec le policier Derek Chauvin, qui lui met la jambe au niveau de la nuque, ce qui l'empêche de respirer.
Amnesty International a collecté plus d'un million de signatures à travers le monde.
Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Il a été condamné à 22 ans et demi de prison le 25 juin 2021.
Sachant qu'il y a eu de nombreuses manifestations, et cela a immédiatement interpellé le mouvement de contestation Black Lives Matter dans tout le pays et au-delà.
Pour représenter le Black Lives Matter, nous avons pris le dessin de Zlatkowski, qui est russe. Dans le dessin, on peut voir un homme de dos qui donne l'impression qu'il court à travers les murs du labyrinthe. On pourrait dire qu'il casse les limites, il casse les différences et la distance qu'il y a entre les personnes blanches et noires.
Cela a peut-être lieu en ce moment, dit le commandant. À l'instant même où nous parlons, là, maintenant, il y a peut-être, à l'heure qu'il est, un corps sur les trottoirs de Damas.
Nous sommes allongés dans les hautes herbes depuis plus de 2 heures, immobiles, scrutant la frontière à nos pieds. La colline est pleine d'hommes qui épient la nuit avec inquiétude. 500 corps qui essaient de ne pas tousser, de ne pas parler. 500 hommes qui voudraient être plats comme des serpents. Nous attendons, c'est Abdou qui doit donner le signal. Il est à peu près 2 heures du matin, peut-être plus. À nos pieds, nous distinguons les hautes herbes. Il y a 2 enceintes, entre les deux, un chemin de terre où patrouillaient les policiers espagnols. Il va falloir escalader 2 fois. Chacun scrute ses fils entortillés en essayant de repérer un endroit plus propice à l'assaut. C'est si près, nous sommes à quelques mètres de notre vie rêvée. Un oiseau ne mettrait pas 1 minute à franchir la frontière. C'est là, à portée de main. Les policiers espagnols ne sont pas très nombreux, une vingtaine à peine. Mais le long de la première barrière, il y a aussi des postes marocains. Combien d'entre nous vont passer? Qui réussira et qui échouera? Nous n'osons pas nous regarder les uns les autres. Mais nous savons bien que tout se joue maintenant et que tout le monde ne passera pas. Cela fait partie du plan, il faut que certains échouent pour que les autres passent. Il faut que les policiers soient occupés à maîtriser des corps pour que le reste de notre bande soit libre de courir. Je me demande ce que je vais devenir. Dans quelques heures, peut-être, je serai en Espagne. Le voyage prendra fin, j'aurai réussi, je suis à quelques heures, à quelques mètres du bonheur, tendu dans l'attente comme un chien aux aguets. Voilà de quoi nous allons parler dans cette nouvelle émission. Tout de suite, notre journaliste Lucas est parti faire des micro-trottoirs. Nous le mettons à l'antenne. Voilà de quoi nous allons parler dans cette nouvelle émission. Tout de suite, notre journaliste Lucas est parti faire des micro-trottoirs. Nous le mettons à l'antenne.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me citer un synonyme de la liberté, s'il vous plaît ?
Bah, par exemple, le droit, libre, voilà.
D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi me citer une personnalité qui défend la liberté ?
Emmanuel Macron, par exemple, je trouve qu'il défend assez la liberté. Ou encore ouais, Barack Obama, quand il était président, il était quand même très investi dans les actions pour la liberté, ouais. Et surtout contre le racisme aussi.
D'accord, et pour finir, est-ce que vous pouvez me citer un événement en rapport avec la liberté, s'il vous plaît ?
Par exemple, quand le mur de Berlin a été détruit, c'était un grand événement pour la liberté, en fait.
D'accord, je vous remercie Jean-Jacques.
Au revoir. De rien.
Bonjour, alors je m'appelle Joshua Perrin, je suis en seconde D.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez me donner un synonyme de la liberté, s'il vous plaît ?
Vous n'en savez pas. Bah, c'est compliqué.
Ok, ben c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez me citer une personnalité qui défend la liberté ?
Emmanuel Macron.
D'accord. Et pour finir, est-ce que vous pouvez me citer un événement en rapport avec la liberté ?
La prise de la Bastille.
D'accord, merci, je vous remercie, au revoir.
Je m'appelle Malcop, je suis en seconde D à Édouard Branly.
D'accord. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me donner un synonyme de liberté ?
Pouvoir.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me citer une personnalité qui défend la liberté ?
Martin Luther King.
D'accord. Et pour finir, est-ce que vous pouvez me citer un événement en rapport avec la liberté ?
La Révolution française.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir écouté et à bientôt.
À
I want to break free. I want to break free.
I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin.